Accent d'Europe, Juliette Garbrand, Anne Cantner.
Bienvenue. Ça ne va pas fort pour Elon Musk sur le continent européen. Après les mouvements sociaux en Scandinavie et un rythme de production en deçà des objectifs, cette attaque contre le site de Tesla à Berlin, paralysé par une coupure d'électricité après un incendie criminel revendiqué par des militants d'extrême gauche.
Cet incendie intervient alors qu'une petite centaine de militants écologistes occupent depuis jeudi dernier la forêt attenante à l'usine, forêt qui doit être en grande partie déboisée afin d'agrandir le site allemand de Tesla.
Notre correspondante Delphine Herbollier s'est rendue sur place. Elle a rencontré ses militants alors que l'attaque contre Tesla continue à faire réagir dans le pays.
L'information fait les grands titres des journaux télévisés allemands depuis hier. La gigafabrique de Tesla a été évacuée, la production suspendue. Tout cela en raison d'une coupure d'électricité intentionnelle. Un acte criminel qui a aussi touché 6 communes environnantes. Devant la presse, André Thierig, représentant de Tesla à Grünheide, a condamné cet acte malveillant.
Nous sommes profondément consternés par ce qui vient de se passer. C'est déjà la deuxième fois que l'alimentation électrique de l'usine est directement prise pour cible. Il y a aussi eu dans le passé une troisième attaque, cette fois contre les installations ferroviaires près d'ici. Nous nous inquiétons pour la sécurité de nos salariés sur place, cela aurait pu être beaucoup plus grave.
L'incendie du pylône électrique qui a entraîné cette coupure d'électricité a été revendiqué par un groupe d'extrême gauche appelé Vulcan et habitué de ce genre d'action. Ce groupe estime, je cite, que Tesla dévore la terre, les ressources, les hommes, la force de travail et crache en échange des SUV. Cette action est depuis hier très critiquée par la classe politique allemande et par Elon Musk lui-même, le patron de Tesla. Elle l'est un peu moins en revanche par la petite centaine d'activistes qui occupent depuis la semaine dernière une forêt adjacente à l'usine Tesla. Nous avons joint par téléphone Louisa du groupe Stopper Tesla.
Notre groupe s'engage pour la protection des ressources en eau potable de la région sur place. Il y a différents groupes qui protestent contre Tesla. Nous ne sommes pas le groupe Vulcan. Nous comprenons toutefois que dans la lutte pour le climat, différents groupes choisissent différents moyens d'action. En attendant, nous allons nous préparer à une éventuelle expulsion.
Cet incendie volontaire pourrait en effet avoir des conséquences pour les activistes qui occupent la forêt voisine de Tesla. Ils y ont construit une quinzaine de cabanes dans les arbres pour s'opposer à un projet d'expansion de l'usine. La police leur avait donné 2 semaines jusqu'au 15 mars avant une éventuelle expulsion. Ce délai pourrait désormais être revu à la baisse, comme l'a confirmé hier le ministre de l'économie du Brandebourg. L'incendie de ce mardi ne change en revanche rien au fond du problème. Tesla souhaite agrandir son immense usine, couper pour cela 100 hectares de forêt et construire au-dessus d'une nappe phréatique. Un projet très critiqué par les militants pour le climat qui occupent la forêt. C'est le cas de Lotte, 24 ans.
Nous occupons la forêt pour empêcher que Tesla s'agrandisse. Ils veulent le faire ici alors que nous sommes dans une forêt. Les arbres sont des capteurs de CO2 et nous sommes aussi dans une zone protégée. Or, on sait que Tesla dépasse déjà largement les limites de sa consommation en eau. En plus, les réserves en eau de la région sont de fait trop justes. Ce projet d'agrandissement est donc une folie.
La population locale est elle aussi très critique envers ce projet. Karine Ludwig habite Grünheide depuis 30 ans et le week-end dernier, elle est venue saluer les occupants de la forêt.
Dès le départ, j'ai trouvé ce projet d'usine néfaste pour Grünheide. Mais je me disais, mon Dieu, jamais le ministre régional de l'Environnement, un écologiste, ne va accepter ce projet. Et que s'est-il passé? Il a accepté. Plus jamais je ne voterai vert, c'était une erreur.
Comme 2/3 des électeurs de Grünheide, cette habitante a voté fin janvier contre le projet d'extension de l'usine Tesla lors d'une consultation populaire. Si ce vote n'est pas contraignant pour les autorités locales, le refus de la population n'est pas anodin à 3 mois des élections municipales. Carola Rakete croit la victoire possible contre Tesla. Cette activiste très connue en Allemagne pour avoir notamment sauvé des réfugiés en Méditerranée représentera le parti de gauche radical Die Linke aux élections européennes en juin. Elle soutient aujourd'hui l'occupation de cette forêt.
Ce mouvement de résistance contre Tesla peut être une grande réussite. À chaque fois que la population locale et les jeunes activistes s'unissent, les chances de réussite augmentent. Et comme la commune doit décider d'autoriser Tesla à construire ou pas, les habitants ont de bonnes chances de faire pression sur leurs représentants. L'approche des élections communales en juin est certainement un grand avantage.
En attendant, les activistes climatiques souvent cagoulés qui occupent la forêt n'envisagent pas de quitter les lieux. Ils sont des plus organisés, entre leur cabane, une cuisine, des toilettes et même un piano installé au milieu des pins. Ils disent ne pas craindre une confrontation avec la police.
Malgré les difficultés, Tesla poursuit son développement en Europe et c'est en Italie, sur les terres historiques de Fiat, que le prochain site pourrait voir le jour.
Des discussions sont en cours entre Rome et le constructeur américain. Le gouvernement souverainiste italien serait prêt, en effet, à revoir son modèle protectionniste pour répondre à ses objectifs de production automobile et ouvrir la botte aux concurrents du géant Stellantis, l'unique constructeur aujourd'hui présent dans le pays. Les précisions de notre correspondante à Rome, Blandine Hugonet.
Aux côtés de l'usine géante de Stellantis en banlieue de Turin, les Italiens verraient bien quelques chaînes de montage du mastodonte américain Tesla. Même si cela peut sembler paradoxal au pays des modèles légendaires Fiat 500 et autres Maserati, c'est pourtant bien le projet inédit de la souverainiste Giorgia Meloni. Des discussions sont en cours depuis des mois avec Elon Musk et les retours sont très positifs, a confirmé le ministre italien des entreprises Adolfo Urso. Il faut dire qu'il y a une proximité affichée avec le patron de Tesla, invité à Rome en décembre dernier pour la fête du parti de la chef du gouvernement. L'extrême droite au pouvoir qui veut à tout prix un second constructeur sur son sol. Elle considère même que c'est une nécessité à l'encontre de ses principes protectionnistes, mais pour atteindre un objectif ambitieux. Relancer la production avec 1 300 000 véhicules par an. Car Stellantis, en baisse de régime, ne peut y arriver seul. D'autant que l'unique constructeur du pays veut délocaliser en Serbie la version électrique de l'emblématique Fiat Panda, mettant en danger leur plus grosse usine près de Naples. En installant d'autres leaders de l'automobile ici, Rome dit vouloir préserver toute une filière, plus d'un million d'emplois en Italie, et stimuler un marché qui pèse plus de 5% du PIB. Alors pour diversifier les constructeurs, l'Italie multiplie les pistes et Tesla n'est pas seul en lice. Au moment de son retrait du méga-projet des routes de la soie, Rome, qui n'est plus à une contradiction près, est déjà en pourparlers avec la Chine et ses géants de la voiture. Mais prudent, l'exécutif italien promet tout de même des mesures commerciales et industrielles pour se protéger de la concurrence de Tesla ou des Chinois et ainsi respecter dans l'automobile aussi l'adage de la politique économique du gouvernement. Gouvernement Meloni, la défense de la production locale ou, comme il le dit en bon italien, du Made in Italy.
Elles sont originaires de Kiev, de Dnipro ou de l'ouest de l'Ukraine et vivent aujourd'hui en Hongrie. Elles y travaillent pour des entreprises ukrainiennes qui les ont relocalisées à Budapest ou bien pour des firmes internationales.
Viktor Orban a souvent entravé les initiatives de l'Union européenne contre la Russie. Malgré cela, ces réfugiés d'Ukraine que notre correspondante a rencontrés sont heureuses à Budapest, une ville internationale dont l'ambiance leur rappelle celle de Kiev, ce qui n'empêche pas le mal du pays. Aussi, pour rester proches de leur culture, elles se réunissent toutes les semaines et elles chantent. C'est un reportage de Florence Labrouillère.
Là, on répète parce que le 9 mars, c'est le 110e anniversaire de Chevtchenko, notre grand poète national. Alors on se prépare pour le concert qu'on donnera ce jour-là.
Dina est originaire de Kiev. Dès le début de la guerre, elle s'est réfugiée en Hongrie. À Budapest, elle a rejoint une chorale de femmes qui, comme elle, ont fui l'Ukraine. Ce n'est pas un hasard si ces femmes ont choisi de chanter sur des poèmes de Taras Shevchenko. Considéré comme le plus grand poète ukrainien, Shevchenko a appelé le peuple ukrainien à lutter pour son indépendance au XIXe siècle. Aujourd'hui, ces poèmes ont une résonance toute particulière.
On a été forcés de partir, alors chaque Ukrainien essaie de garder un petit morceau de son pays avec lui. Shevchenko nous rappelle notre patrie, là où se trouve notre cœur, et c'est vraiment important aujourd'hui.
«
La chorale répète dans le centre d'aide aux Ukrainiens au cœur de Budapest. Il est géré par la mairie de la capitale, en coopération avec le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU et l'Organisation internationale pour les migrations. Les Ukrainiens y trouvent des informations sur leurs droits, sur la vie quotidienne, comment inscrire son enfant à l'école ou bénéficier des soins médicaux en Hongrie. Mais c'est aussi un lieu culturel, indique Daniel Bagameri, directeur régional de l'Organisation internationale pour les migrations.
C'est un lieu de rencontre pour que les Ukrainiens créent des liens entre eux et puisent de la force dans l'histoire et la résilience de chaque personne. Il y a toutes sortes de programmes, des clubs de chant, des ateliers de dessin pour enfants. Il y a des cours d'informatique et de langue vivante, ce qui est très important.
Combien y a-t-il de réfugiés ukrainiens en Hongrie ? Pas facile de répondre à cette question, explique le directeur de cette organisation onusienne.
Environ 40 000 personnes ont obtenu une protection temporaire en Hongrie. Mais cela ne veut pas dire que toutes ces personnes sont encore en Hongrie, car elles ont le droit de se déplacer dans l'Union européenne. En outre, il y a des Ukrainiens qui sont arrivés ici après le début de la guerre pour travailler.
Parmi ces Ukrainiennes installées à Budapest, certaines travaillent toujours pour leur employeur ukrainien. C'est le cas de Marina, une jeune femme menue de 23 ans.
Je suis de Dnipro, au centre-est de l'Ukraine. Au départ, je pensais aller en Pologne, mais c'était déjà plein d'Ukrainiens là-bas. Et ils avaient déjà du mal à trouver un logement ou du travail. À l'ouest de l'Ukraine, c'était pareil, beaucoup de gens étaient venus de tout le pays. Je me suis dit qu'il fallait que je laisse la place à ces personnes déplacées. Moi, je pouvais partir à l'étranger grâce à l'entreprise informatique pour laquelle je travaillais, qui a une filiale en Hongrie. Alors j'ai été relocalisée ici.
Sofia a 27 ans. Elle est originaire de l'ouest de l'Ukraine, une région épargnée par les combats. Elle a cependant quitté son pays, après avoir été recrutée par l'entreprise britannique British Petroleum, qui a une filiale à Budapest.
C'est le destin qui m'a fait venir ici. Malgré la guerre, je n'avais pas l'intention de quitter l'Ukraine, mais on m'a proposé un job ici et j'ai décroché le poste. Des amis ukrainiens qui travaillaient à Budapest m'ont dit que les Hongrois étaient accueillants et que la vie à Budapest ressemblait à celle qu'ils avaient à Kiev avant la guerre. Et je suis heureuse ici, j'ai fait le bon choix.
Mais derrière sa gaieté, Sofia a le mal du pays.
L'Ukraine me manque beaucoup, bien sûr, et je suis triste parce que je ne sais pas si on pourra un jour revenir à une vie normale. J'espère que oui, mais quand ? Personne ne sait.
Dina a 4 enfants. C'est pour les mettre à l'abri qu'elle est venue à Budapest. Ses enfants vont dans une petite école privée où les cours sont en anglais. Selon Dina, rien ne sera plus jamais comme avant.
J'ai toujours un job en Ukraine. Je travaille pour l'agence spatiale de mon pays. Je ne suis pas astronaute, je m'occupe d'administration. Mais je suis encore en congé maternité, alors je donne des cours de yoga à Budapest. Nous toutes ici, on comprend qu'on ne pourra pas retrouver notre vie d'avant, que c'est une autre vie qui commence.
Comme Dina et ses amis ont un emploi, elles n'ont pas pensé à demander le statut de réfugié, ce qui leur donnerait des droits supplémentaires, comme celui de voyager librement en Europe. Mais comme tous les réfugiés, elles vivent dans un entre-deux et souhaitent ardemment retourner chez elles. Mais le temps passe et elles se rendent compte qu'elles sont en train de commencer une nouvelle vie.
L'opposition entre la famille traditionnelle et les libertés des minorités sexuelles, c'est un thème cher au parti conservateur de nombreux pays d'Europe. En Turquie, l'expression « aile kurumu » n'a jamais été aussi présente dans le discours du pouvoir que ces dernières années. Dans la bouche du président Recep Tayyip Erdogan, ces deux mots, « aile kurumu » qui signifie « institution de la famille », sont devenus symboles d'un discours de haine totalement décomplexé à l'égard des minorités LGBT. On en parle avec notre correspondante en Turquie, Anne Andlauer. Le rejet de l'homosexualité a été l'un des grands thèmes de la campagne du président Erdogan pour sa réélection l'an dernier. Et à quelques semaines des municipales du 31 mars, le pouvoir reprend les minorités sexuelles pour cible.
En effet, présenter ses opposants comme des alliés des LGBT et des ennemis de l'institution de la famille, c'est devenu un classique de son discours des 3 ou 4 dernières années. Dans ses interventions régulièrement, Recep Tayyip Erdogan qualifie les LGBT de pervers. Il les compare à la peste et un poison pour la famille turque. Il le fait, dit-il, au nom de la morale et de la religion, l'islam en l'occurrence. Et il se présente en grand défenseur de ce qu'il appelle la sacralité de la famille. Extrait d'une interview récente du chef de l'État turc.
La protection de l'institution de la famille est ma priorité. Je ne peux pas accepter qu'au nom de la liberté, des styles de vie pervers comme celui des LGBT soient imposés à notre société. Protéger la famille, qui est le socle de la société, est notre devoir à tous, le devoir de toute l'humanité.
Lorsqu'on lui rappelle ce genre de propos, Angélique Kelavgil, un militant transféministe, pousse un soupir de découragement.
Le populisme de droite qui se répand dans le monde tente d'imposer une certaine image de la famille et un certain mode de vie. Et c'est aussi ce qu'on vit en Turquie, comme en Hongrie, en Russie, au Moyen-Orient ou ailleurs. Les pouvoirs inventent une autre réalité et s'en prennent à nous pour consolider leur base. Dans cette nouvelle réalité, les LGBT ne sont même pas considérés comme des êtres humains.
Une réalité déformée, des personnes LGBT déshumanisées. Cette homophobie dicte parfois au gouvernement des propos totalement absurdes, Anne.
Oui, comme lorsque le ministre de l'Intérieur a prétendu l'année dernière qu'en cas de victoire de l'opposition, eh bien, les humains seraient désormais autorisés à se marier et avoir des relations sexuelles avec les animaux. Tous les moyens de l'État, notamment les médias, sont mis à contribution pour propager ce discours. Le mois dernier, la télévision d'État TRT a par exemple diffusé une série documentaire intitulée « True Colors » consacrée, je cite, « au lobby LGBT », une série censée, je cite toujours, « explorer les histoires inédites de ceux qui ont été affectés par la propagation de l'idéologie du genre ». Il faut souligner que ce type de discours trouve un écho certain au sein de la société turque, où l'homophobie est largement partagée dans le camp du pouvoir, mais aussi dans celui de l'opposition.
La communauté LGBT est plus que jamais une cible pour les autorités. Cela dit, ce n'est pas nouveau.
Non, mais le ton et la répression sont allés crescendo ces dernières années. La marche des fiertés, la Gay Pride d'Istanbul, en est l'illustration frappante. Pendant plus de 10 ans, elle a réuni des foules de plus en plus nombreuses, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes en 2013 et 2014. Eh bien, cette Gay Pride d'Istanbul est désormais interdite depuis 2015 et elle est systématiquement réprimée par la police de façon particulièrement violente. Et puis ce n'est pas tout, au sein des universités, les clubs LGBT ont été fermés sur ordre des autorités. Le drapeau arc-en-ciel est interdit dans l'espace public. Régulièrement, les plateformes de vidéos à la demande reçoivent des amendes pour avoir diffusé des séries qui mettent en scène des personnages LGBT. On est donc loin du Tayyip Erdogan qui, il y a 21 ans, juste avant son arrivée au pouvoir, s'engageait, je cite, « à protéger les droits des homosexuels ». Au passage, c'est bien la preuve que cette campagne anti-LGBT a peu de rapport avec la religiosité du président turc et tout à voir avec sa stratégie de polarisation de la société pour se maintenir au pouvoir.
Et donc concrètement, quels sont les risques pour les personnes concernées ?
Alors la nouveauté, c'est qu'aux dernières élections, Recep Tayyip Erdogan a fait alliance avec deux petits partis islamistes et que l'une des principales revendications de ces partis, c'est l'interdiction totale des associations LGBT. Les médias pro-Erdogan affirment que le pouvoir prépare un texte qui permettrait d'y parvenir sans être désavoué par la Cour constitutionnelle. Plus largement, les associations craignent une forte hausse des violences homophobes au quotidien, encouragées par ce discours officiel et par l'impunité dont bénéficient en général les auteurs de violences. Ces ONG assurent même que c'est déjà le cas, que les violences sont de plus en plus fréquentes, qu'il est de plus en plus difficile d'être gay, lesbienne, transsexuel ou autre en Turquie. C'est ce que nous raconte Angélique Kelavgil, le militant transféministe.
Ça a un impact direct sur notre quotidien. On peut être agressé à tout moment quand on marche dans la rue. On ne trouve pas de travail. On peut être mis à la porte par notre propriétaire parce qu'on est LGBT. Notre accès aux services de santé peut être réduit. On peut être renvoyé de notre résidence universitaire simplement parce qu'on a participé à la Gay Pride. On peut être privé de nos bourses pour les mêmes motifs. La fermeture de nos ONG serait un coup sérieux porté à la mobilisation LGBT en Turquie. Ce serait la porte ouverte à l'interdiction de toutes les ONG LGBT ou pas, qui militent pour les libertés et la démocratie. Cela aurait pour conséquence un renforcement de l'autocratie en Turquie.
Pour le pouvoir, encore et toujours, il s'agit de continuer à stigmatiser les LGBT et leurs défenseurs pour mieux polariser la société.
Merci Anne Andlauer, notre correspondante à Istanbul. Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. On se retrouve demain.